Vous êtes sur RTL.
Merci, monsieur Corbet.
RTL Midi, Amandine Bégaud, Pascal Pro.
Et rebonjour à tous, 2 heures d'infos, de débats, mais aussi d'opinions avec les auditeurs. L'info, c'est avec Amandine, vous le savez, tous les jours jusqu'à 13h. Bonjour Amandine.
Bonjour Pascal, bonjour à tous. Et à la une, la rentrée des profs, deuxième rentrée en mode Covid, Emmanuel Macron qui pose ses valises à Marseille. Et puis du foot, premier match éliminatoire pour la Coupe du Monde 2022, l'équipe de France affronte ce soir la Bosnie.
Et juste après le journal, dès 13h40, on s'arrêtera sur deux sujets. On reviendra d'abord sur cette info que RTL vous révélait dès ce matin, la boîte automatique passe devant la boîte manuelle. Est-ce qu'elle va perdre le plaisir de conduire? Et puis, faut-il mieux payer nos enseignants?
La question du jour, justement, sur RTL.fr. Hein, et vous dites non, il ne faut pas mieux payer nos profs, à 53%. Oui, à 37%. Petit coup d'œil sur notre météo avec vous, Peggy Broche. Bonjour Peggy.
Bonjour Amandine.
C'est pas si mal.
Mais oui, globalement, c'est une belle journée bien ensoleillée. Il n'y a que sur les Pyrénées, en fait, où ça se gâte avec des averses orageuses. Un ciel plus ou moins voilé dans le sud-ouest. Et côté température, elles sont de saison. Et même chaude dans le sud, de 25 à 30 degrés dans le sud et de 21 à 25 au nord.
Merci Peggy, à tout à l'heure, 13h.
RTL Midi.
Le jour J, donc, pour quelques 800 000 enseignants de la maternelle au lycée, les profs faisaient ce matin leur rentrée. Marie Guerrier, on vous retrouve au collège de la Lande, à Athis-Mons, dans l'Essonne. Et sans surprise, le sujet de discussion ce matin, c'est d'abord le protocole sanitaire.
Oui, le principal a accueilli les professeurs ce matin et détaillé le protocole sanitaire. Il prévient, pas question de lésiner sur la sécurité.
Il ne faut pas que l'on revive ce que l'on a vécu. Il ne faut pas que certaines familles revivent les tragédies qu'elles ont vécues. Des élèves en souffrance qui ont perdu un grand-père, une grand-mère en une semaine et qui se disent « c'est à cause de moi parce que c'est moi le premier qui a attrapé le Covid, ça je n'en veux plus ».
Donc port du masque obligatoire en intérieur mais aussi à l'extérieur dans les cours du collège, c'est ce qu'a décidé ici le principal. L'an dernier, pour éviter le brassage des élèves, le système d'une classe dans une salle attitrée n'a pas bien fonctionné. Donc cette année, il y aura un niveau par étage, les 6e ici, les 5e là et pas de mélange non plus en récréation. Pour ce qui est de l'aération, une prof fait remarquer.
En fait, on a parfois une seule fenêtre qu'on peut mettre en bascule là comme ça. On ne peut pas ouvrir toutes les fenêtres d'une salle, ça, je crois que ça n'existe pas dans ce collège.
La consigne, c'est quand même d'aérer à tous les intercours et le Conseil général de l'Essonne a fourni pour cette rentrée 5 capteurs de CO2 à l'établissement. Un murmure monte parmi les enseignants. Le protocole sanitaire, c'est une chose, mais ils s'inquiètent plus encore de la scolarité et des difficultés de leurs élèves dans ce collège classé en réseau d'éducation prioritaire. Il nous faut des moyens supplémentaires, souffle une prof en colère.
Athis-Mons dans l'Essonne, le reportage de Marie Guerrier pour RTL.
Et Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation, disait hier que jamais un professeur ne gagnera moins de 2000 euros brut, mais c'est pour 2024. Pour le moment, il gagne 1869 euros aujourd'hui. Donc effectivement, c'est un des sujets dont on parlera tout à l'heure avec Sophie de Tarlé, rédactrice en chef du Figaro étudiant.
Le début aujourd'hui de la campagne de rappel de vaccination, la fameuse troisième dose. Et déjà 100 000 rendez-vous pris sur Doctolib en seulement 2 jours. C'est une info RTL. Un engouement que confirme Jacques Battistoni, il est généraliste et président du syndicat MG France.
Beaucoup de nos patients ont été vaccinés. Certains s'inquiètent de voir leur immunité baisser, leur risque d'attraper la maladie réapparaître. Et donc, ils nous demandent, avec parfois une petite pointe d'inquiétude, à savoir quand est-ce qu'ils vont pouvoir être vaccinés. Ils ont envie d'une troisième dose, ils ont envie d'être protégés. Ça va se faire progressivement. Et en ce qui me concerne, je vais leur donner la possibilité d'être vaccinés à partir de la semaine prochaine. Et je crois vraiment, en les écoutant, que leur souci, c'est d'avoir une protection maximale.
Le docteur Jacques Battistoni, joint pour RTL par Agathe Landé. Cette troisième dose, hein, on le rappelle, elle est réservée aux plus de 65 ans vaccinés depuis au moins 6 mois. Ce sera l'une des images de la journée. Emmanuel Macron à Marseille. Le président entame une visite de 3 jours, arrivée prévue cet après-midi à 15h. Et de nombreux dossiers à régler. Étienne Baudu, est-ce que les Marseillais y croient ?
Oh, vous savez, les Marseillais en ont vu passer des ministres et des présidents de tous bords avec tous des plans et des millions dans leurs valises. Mais beaucoup sont désabusés, comme cette habitante de la cité Fontvert dans les quartiers nord.
C'est bien beau d'être président et de venir et de se montrer, mais s'il n'y a rien qui suit. Il n'a rien fait ça va faire un quinquennat qu'il est là. Et il n'y a rien. Il faut qu'il bouge.
Alors évidemment, on se pose la question des écoles et l'aide forte annoncée par l'État pour les rénover. C'est une question qui intéresse particulièrement cette maman.
Des réparations de chauffage. Pendant quelques mois, il y a le chauffage cassé en classe, que ça met du temps à être réparé. Voilà, si les écoles sont plus grandes, on peut faire plus de classes. Et puis, il peut y avoir moins d'enfants par classe et plus d'enseignants. Voilà, c'est un tout en fait.
Et puis, au-delà des élus qui attendent avec impatience le montant du chèque que l'État va signer, certains habitants espèrent, eux, pouvoir rencontrer, pourquoi pas, le président. Ils ont des idées, dont certaines sont du ressort du chef de l'État et du gouvernement.
Le vrai problème, ce n'est pas les petits dealers de 14 ans. Il faut aussi pointer du doigt le trafic d'armes, parce que le trafic de drogue n'est pas tout seul. Le problème, c'est les pays comme le Maroc qui légalisent la production de cannabis. Donc, à un moment donné, c'est ces vraies questions-là qu'il faut traiter.
Et d'ajouter pêle-mêle le besoin de locaux pour les associations, le manque de moyens des centres sociaux, les transports insuffisants pour sortir de l'isolement, certaines cités.
Étienne Baudieu à Marseille pour RTL. On l'a souvent surnommé le Pablo Escobar français. Le procès de Moufid Bouchibi s'est ouvert ce matin à Bordeaux. Philippe Demaria, vous êtes sur place pour RTL. Début d'audience, chahuté.
Oui, parce que Mouf, c'est son surnom, aurait été extrait de force de sa cellule sans que ses avocats ne soient prévenus. Il se dit malade. Moufid Bouchibi apparaît très pâle dans le box, chemise blanche cintrée, taille moyenne, visage rond. Il répond très distinctement au président, très posé, attitude humble. Pourtant, son périple est absolument hors norme. Il aurait dirigé son trafic exilé en Afrique du Nord, envoyant des centaines de kilos de cannabis vers la France via des go-fast avant d'être interpellé à Dubaï et remis aux autorités françaises. C'est là que le bât blesse, selon Maître Bidnik, son défenseur qui réfute totalement la légalité de cette opération.
Quand bien même il serait coupable, il ne peut pas être jugé. Il y a une convention d'extradition qui oblige les États à extrader. Et puis finalement, tout à coup, ce sont 5 fonctionnaires du ministère de la Justice français qui vont le chercher, qui le ramènent, qui lui disent rien. Ça s'appelle une extradition déguisé, c'est radicalement impossible. Il ne peut pas être jugé aujourd'hui.
Et après une très longue suspension de séance, Moufid Bouchibi a été examiné par un médecin et déclaré apte à comparaître enfin devant le tribunal de Bordeaux.
Et Philippe Demaria, l'un des correspondants d'RTL à Bordeaux.
Autre procès qui s'ouvrira, lui, dans une semaine tout juste, celui des attentats du 13 novembre.
Et depuis lundi et toute la semaine, RTL vous propose une série de témoignages exceptionnels. Parole aujourd'hui à Grégory Rebenberg, le patron de la Belle Équipe. Vous savez, c'est l'une des terrasses des brasseries qui avaient été visées ce jour-là. Sous ses yeux, sur sa terrasse, ce sont 20 personnes qui ont perdu la vie. Parmi elles, la mère de sa fille.
Quand vous avez 15 personnes sur le carreau et une mare de sang... Et quand vous savez qu'il y a des gens qui sont sur votre terrasse, qui ont des enfants et les deux vont pas rentrer, et que vous, vous êtes debout, et que vous avez fermé les yeux de la maman de votre fille, j'avais pas le droit, je ne pouvais pas m'écrouler. Voilà. Je fais comme tout le monde, à un moment, il faut rentrer chez soi. Je rentre chez moi, et moi, je ne suis omnibulé que par une chose. Il faut que je me préserve, et comment je veux gérer demain. Parce que demain, j'avais un des plus gros boulots de ma vie, les plus difficiles au monde. D'annoncer ça à ma fille. Donc juste après ça, je suis allé dormir. Comment elle l'a reçu sur le coup? T'es un menteur, papa. Papa, c'est pas vrai. Papa, t'es un menteur. C'est une très belle réponse. Papa, t'es un menteur quand on est un enfant. Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise d'autre?
T'es un menteur, papa. Les mots glaçants hein, de Grégory Rebenberg de la brasserie La Belle Équipe. Témoignage recueilli pour RTL par Thomas Proutot. Il est à retrouver en longueur ce soir à 18h sur RTL et en podcast sur RTL.fr. Au lendemain du retrait américain, le Qatar appelle aujourd'hui les talibans à assurer un passage sûr. Ce sont leurs mots pour quitter l'Afghanistan. Ce n'est pas anodin puisque le pays fait partie, on le rappelle, de ceux qui entretiennent de bonnes relations avec les talibans dans ce contexte. Et pour la première fois, l'un des militaires qui a participé aux évacuations témoigne, le lieutenant-colonel Nicolas. Il était ce matin l'invité d'RTL, invité de Benjamin Sportouche. C'est le premier pilote français à s'être posé sur l'aéroport de Kaboul mi-août.
Je dirais que l'image la plus forte, c'est de revoir la soute de notre avion qui normalement est faite pour 116 personnes, la voir pleine à craquer, si je puis dire, de personnes voilà qu'on a fait rentrer parce qu'ils souhaitaient partir. Et 266 personnes, c'est le chiffre exact, alors que notre avion qui était un A400M n'a normalement que 116 places assises certifiées. Et qu'on a fait rentrer donc dans des conditions un petit peu dégradées malgré tout, mais qui semblaient malgré tout contentes d'être à bord. C'est effectivement très émouvant de voir ces gens qui quittaient avec très peu de bagages leur pays. C'était vraiment quelque chose de très fort.
Le lieutenant-colonel Nicolas sur RTL ce matin avec Benjamin Sportouche.
Le foot est la suite des éliminatoires pour la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Et je rappelle qu'elle aura lieu en décembre 2022, c'est-à-dire dans 15 mois, c'est demain.
Oui, c'est demain. Et 3 matchs en 7 jours pour l'instant pour les Bleus. Ça commence ça dès ce soir. L'équipe de France affronte la Bosnie. Bonjour Philippe Sanfourche.
Bonjour.
La nuit a été courte pour certains, à commencer par Griezmann, dont le transfert pour l'Atlético Madrid a été annoncé à la toute dernière minute, à 23h59, à 1 minute de la fin du mercato.
Oui, après de longues heures de stress et d'incertitude, quand des projets de carrière, de vie aussi, se jouent en quelques minutes. Hier soir, sur la pelouse de la Méno à Strasbourg, vers 19h, Antoine Griezmann et Kylian Mbappé avaient le sourire appliqué sur le dernier entraînement des Bleus, mais les têtes étaient forcément un peu ailleurs. Et Didier Deschamps, lui, obligé de se montrer indulgent.
Je les trouve sereins et heureux d'être là. Ce sont des professionnels. C'est des situations qu'ils ont déjà été amenés à gérer aussi. C'est proche de notre match, bien évidemment, mais bon, voilà.
Alors ce match, Philippe, c'est aussi le premier depuis le raté de l'Euro.
Oui, et cet ultime tir au but raté de Kylian Mbappé, encore lui face à la Suisse, c'est peu dire qu'il a hâte comme les autres, mais peut-être encore un peu plus de rejouer dès ce soir avec les Bleus pour repartir de l'avant, oublier le stress du mercato et renouer le fil avec le public français. Là aussi, 22 000 personnes attendues ce soir, ce sera une première depuis près de 2 ans, un match à guichet fermé en France pour voir jouer l'équipe nationale.
Merci beaucoup Philippe. Philippe Sanfourche, France-Bosnie, ce sera à Strasbourg et à suivre bien sûr sur RTL, RTL Foot. Spéciale équipe de France, c'est dès 20h40. Match à voir également sur M6. Et puis à Tokyo, ça y est, les Bleus ont dépassé leur objectif de 35 médailles. On en est ce midi à 39. Dernière en date, c'est Hugo Didier qui décroche le bronze sur le 200 mètres 4 nages. Un peu plus tôt, le cycliste Florent Joigny a lui décroché l'or sur la course en ligne.
À suivre deux débats. On reviendra d'abord sur cette info que RTL vous a révélée ce matin, la boîte automatique qui détrône la boîte manuelle. 54% des véhicules vendus en France. Va-t-on perdre le plaisir de conduire? Et puis le deuxième sujet, la rentrée des enseignants. Et une question, faut-il mieux payer nos profs? A tout de suite.
RTL. RTL Midi. Avec Amandine Bégaud et Pascal Pro.
Moi, ce qui me fait le plus plaisir à la rentrée, c'est de revoir mes copains et de voir à quoi elle ressemble ma nouvelle maîtresse.
Est-ce que vous allez pleurer le jour de la rentrée?
Oui, je vais pleurer de joie.
Les pleurs de joie, la rencontre aussi avec la maîtresse, ce sera pour demain. Aujourd'hui, c'était au tour des enseignants justement de faire leur entrée. 800 000 profs parmi eux. Il y a Tatiana, enseignante de français, qui a rencontré ce matin Marie Guerrier.
Moi, je suis à 11 ans de carrière. J'ai commencé à 1 700 €. Et aujourd'hui, donc en REP, je suis à 2 000 €. Donc une progression de 300 € en 10 ans. Là, les professeurs débutants qui arrivent chez nous, donc ils sont à mi-temps, et ils sont à 1 400 €. Donc 1 400 € où clairement pour demander un logement, bien c'est impossible en région parisienne.
Le salaire des enseignants, c'est le premier débat d'RTL Midi. Faut-il mieux payer nos profs? Bonjour Sophie de Tarlet.
Bonjour.
Vous êtes rédactrice en chef au Figaro étudiant. On vient d'entendre cette enseignante, elle parle de 1 400 € net pour un professeur stagiaire. C'est ça la règle?
Oui, tout à fait. Et puis, bon, bah, il y a quand même une annonce. On se rappelle du Grenelle de l'éducation avec la promesse de Jean-Michel Blanquer qui a été réitérée hier sur Brut de mettre un salaire à 2 000 € pour les professeurs débutants.
Donc, 2024. D'ici 2024.
Voilà, d'ici 2024. Donc, c'est quand même. Il y avait une enveloppe qui était de 700 millions d'euros pour 2022. Donc, il y a eu quand même des efforts faits. Mais c'est vrai que on est toujours sur la moyenne de l'OCDE pour le paiement des enseignants, on est toujours en dessous de la moyenne. Donc en effet, les enseignants se plaignent. Et puis j'ai envie de dire, il y a le problème des enseignants jeunes qui débutent, donc en effet c'est bien de les revaloriser, mais comme le dit cette enseignante, il y a des gens qui ne sont pas à 2 000 €, bon, là elle est en REP, mais il y a des gens qui ne sont pas en 2 000 € après 10 ans de carrière. Donc là il y a eu beaucoup de réactions d'enseignants qui disaient, ah ben d'accord, donc en 2024 les enseignants vont être payés 2 000, mais moi au bout de, je suis à l'échelon 8-9, j'ai 10-15 ans de carrière, et puis je suis payée 2 000, j'ai pas, donc je comprends qu'il y ait cette inquiétude. études, mais il y a eu quand même des efforts qui ont été faits et des enveloppes, ce qui n'est pas négligeable. On parle quand même, c'est un peu, on parle de 860 000 enseignants, hein, c'est pas une PME l'éducation nationale. Hein.
On a le sentiment que dans les années 70-80, les profs étaient mieux payés, que leur salaire par rapport au SMIC, qui peut être un indicateur intéressant, était beaucoup plus haut qu'il ne l'est aujourd'hui. Est-ce que c'est une réalité ?
Alors, sans doute, oui. Mais surtout, je pense que par rapport aux années 70-80, il y a le problème du salaire, mais il y a aussi le problème de l'image de l'enseignant qui s'est fortement dégradée.
Oui, mais les deux sont liés parfois. Le prof était un notable parce qu'aussi, il gagnait mieux sa vie qu'aujourd'hui. Et il était peut-être mieux considéré, mieux respecté, précisément parce qu'il gagnait mieux sa vie.
Les deux sont quelque chose de très important. La considération, l'image, dans toutes les études, il y a une étude qui est parue sur, qui a été demandée par l'UNSA, par exemple. Les demandes que font les profs, c'est une revalorisation, évidemment, des salaires, mais aussi tout ce qui est problème de la sécurité, de l'image de l'enseignant dans la société et l'attractivité. Moi, je m'occupe du Figaro étudiant, donc je vois au plus près les demandes des jeunes en matière d'orientation. Et clairement, moi je fais un hors-série sur l'orientation, hein, et il y a une page sur le métier de prof, globalement, les demandes après le bac, c'est pour les métiers de la santé, les métiers du droit, mais le métier d'enseignant n'attire pas. Et il y a eu 30% en moins de demandes pour le métier de prof de maths, par exemple.
Voilà, il y avait 1167 postes proposés cette année, 1167 pour être prof de maths au CAPES, seuls 1067 candidats ont été admis, et en allemand il y avait 122 places, 66 ont été admis, donc à peine la moitié.
Oui,
c'est terrible. Augmentait le salaire, ça changerait
peut-être
quelque chose.
Chaque année, on voit des professeurs qui disent « Ah ben oui, parce que le problème, c'est que le prof de maths, il est payé comme le prof de français, ou le prof d'histoire-géo. C'est un peu normal. Mais sauf que c'est pas normal dans la mesure où le prof de maths, il a d'autres tentations. Dans l'entreprise, il peut être mieux rémunéré. Donc peut-être un professeur d'histoire-géo a moins d'offres d'emploi. Donc c'est sûr que entre une carrière d'ingénieur dans une grande entreprise et une carrière de prof de maths, le choix est vite fait.
Alors ce qui est important également de préciser, c'est que vous gagnez 2000 euros ou 1869 euros, ce qui est le premier salaire aujourd'hui, que vous habitiez Noirmoutier ou Paris. Mais c'est pas la même chose lorsque vous habitez dans une petite ville, dans une commune rurale ou pourquoi pas en dehors de Paris. Paris, c'est impossible. Un prof n'est pas mieux payé. Il n'y a pas une prime pour un prof dans la région parisienne ?
Oui, il y a toutes sortes de primes. Mais moi, je dirais que le problème, c'est que, je disais au début, c'est pas une PME, c'est ça le problème. Enfin, c'est beaucoup de gens à gérer. Et le problème, c'est qu'il y a pas, les syndicats ne le souhaitent pas, il n'y a pas tellement d'individualisation des salaires. C'est-à-dire que.
Quand il y a une augmentation, elle est générale.
Elle est générale.
Comment on pourrait être mieux payé à Paris, par exemple, qu'en province? En fonction du logement, ce qui est une forme de bon sens. Et pour attirer, pourquoi pas d'ailleurs, des profs dans la région parisienne.
Oui, alors là,
pourrait avoir une prime de logement ou des choses comme ça.
Il y a des différences de salaire, par exemple, si on est dans une zone d'éducation prioritaire par rapport aux autres. Mais c'est vrai qu'il y a aussi le fait que, en fait, on est, quel que soit le travail, ici, par exemple, à RTL, si vous faites un bon travail, vous êtes peut-être un peu mieux payé.
Il n'y a pas de revalorisation au mérite, c'est ça ?
Exactement, parce que les syndicats ne veulent pas, et ça, c'est la plus grosse réticente des syndicats, c'est qu'ils veulent que les augmentations soient automatiques.
Juste une toute dernière question en un mot, Sophie de Tarlet. Vous disiez on est au milieu, dans la moyenne de l'OCDE. On dit souvent et on entend souvent les syndicats qui disent en Allemagne, par exemple, un prof, ça gagne deux fois plus qu'en France. C'est vrai ça ou c'est faux ?
Oui, j'ai pas dit qu'on était dans la moyenne, on est en dessous quand même de la moyenne de l'OCDE. Et la différence, selon la dernière étude de l'OCDE, elle est surtout très forte en milieu de carrière. Un peu moins en fin de carrière, elle est de 22% au milieu de carrière. Donc le problème, il est vraiment de gens comme l'enseignante qui a été interviewée par vos soins d'ailleurs, c'est le fait que quelqu'un, au bout de 10-15 ans de carrière, eh bien, son salaire n'a pas vraiment augmenté.
La vie des profs est parfois difficile, notamment à Paris, pour être en cours à 8 heures. Des professeurs se lèvent parfois à 4 heures, 5 heures du matin parce qu'ils ont une heure et demie de transport. Il faut le savoir. Merci beaucoup, Madame de Tarlet. Merci beaucoup. Deuxième débat dans une seconde. C'est la boîte automatique qui détrône la boîte manuelle. C'est une révolution. 54% des véhicules vendus en France ont désormais la boîte automatique. Amandine, vous préférez
Non, moi je suis plutôt manuelle.
Eh bien, on va en parler ensemble. C'est plus a priori l'automatique, c'est plus tranquille, surtout en ville. C'est pratique. Hein, on n'a pas à passer précisément la vitesse. À
oui,
tout
c'est
de suite.
Pas pareil.
C'est pas pareil. Vous êtes une sportive. À tout de suite.
RTL. RTL Midi avec Amandine Bégaud et Pascal Pro.
Pour la première fois en France, les boîtes automatiques dominent le marché de la voiture, un engouement qui touche toutes les marques, tous les modèles. Nous allons y revenir.
RTL vous le révélait dès ce matin, ça y est, la boîte auto a donc détrôné la bonne vieille boîte manuelle. Sur les 8 premiers mois de l'année, elle représente 54% des véhicules vendus chez ce concessionnaire parisien. Difficile d'ailleurs, écoutez, de trouver une boîte mécanique.
Une vingtaine de véhicules exposés. Combien sont en boîte mécanique?
Oui.
Je pense qu'il n'y en a pas.
La démonstration est claire. Va-t-on pour autant perdre le plaisir de conduire? C'est le deuxième débat d'RTL Midi. Christophe Bourreau, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le spécialiste auto ici à RTL. Bernard Darnis, bonjour.
Bonjour Amandine, bonjour Pascal.
Bonjour.
Merci d'être avec nous, ancien pilote de rallye. On va vous retrouver dans un instant, Bernard. Christophe, d'abord, c'est vous qui nous révéliez ces chiffres ce matin. Comment on l'explique ce phénomène? C'est lié au développement de la voiture électrique?
Alors, c'est vrai, car sur les véhicules électriques, vous n'avez pas le choix. C'est en boîte automatique. Mais vu le volume de vente, on est sur un phénomène beaucoup plus général qui touche l'ensemble des gammes, l'ensemble des marques, de la citadine aux gros véhicules utilitaires. Un exemple chez Volkswagen, aujourd'hui, c'est 64% des ventes qui se font en boîte automatique. Et cela touche aussi toutes les grosses stars du marché. Un exemple, la Peugeot 3008, qui fait partie des grosses ventes, et bien là, il y a à peine 16% des clients qui réclament une boîte manuelle, j'ai envie de dire à l'ancienne. Donc il y a une vraie demande, et c'est pas prêt de s'arrêter, puisqu'effectivement, le boom des véhicules électriques et hybrides est en marche. Et puis les constructeurs, Volkswagen a annoncé notamment qu'ils allaient arrêter la boîte manuelle d'ici à 2023, donc c'est-à-dire demain. Donc voilà, la révolution est en marche, quoi. Alors il faut savoir aussi juste un petit mot que, pour donner un exemple, en 1995, il y avait à peine 3% du marché qui était en boîte automatique en France.
C'est allé très vite.
C'est allé très très vite.
Bernard Darnis, je m'adresse à l'ancien pilote de rallye. Est-ce que conduire une boîte automatique, c'est encore conduire?
Ah oui, non seulement c'est conduire, mais c'est vraiment être dans la modernité. Les boîtes automatiques, ce n'est plus l'appellation correcte. Il faut appeler ça des boîtes robotisées intelligentes. Et là, on est dans un autre monde. Au risque de froisser les puristes de la volonté de boîte mécanique, la boîte automatique robotisée n'a que des avantages. Mais je vais vous en citer un seul. Les études sont là pour le montrer. Il y a des parcs automobiles où les voitures sont observées, où le conducteur est observé. L'attitude au volant avec une boîte robotisée est infiniment plus cool. La consommation dans la vraie vie, dans la vraie circulation, tombe également. Et puis surtout, ce qui est très important pour les parcs automobiles, comme certains utilitaires légers, on se rend compte que la dégradation des freins, des transmissions, des pneus, tout s'use moins vite avec une boîte robotisée. Et puis pour le plaisir d'un pilote comme moi, comme j'étais, je conduis.
Je vous interromps parce qu'il y a Ludovic van de Kerckhoff qui est le rédacteur en chef de cette édition qui dit « on s'ennuie ». Vous voyez, il dit ça, voilà, parce que c'est un homme. Les hommes, ils s'ennuient parfois en voiture quand ils ne changent pas les vitesses.
Non, c'est faux, parce que... Alors, évidemment...
Bah lui, il s'ennuie, il a le droit de s'ennuyer, c'est son avis.
Mais parce qu'il n'a pas, il n'a pas plongé dans la modernité.
Ah ben ça, je lui dis souvent. Je lui dis souvent, Ludovic, tu n'as pas plongé dans la modernité. Je suis d'accord.
Pascal, on est très archaïque en France quand on regarde l'automobile. Il y a bien longtemps qu'en Allemagne, les boîtes mécaniques n'existent plus. Aux États-Unis, ça n'existe plus. Et il y a bien longtemps qu'il n'y a plus du tout de boîtes mécaniques dans ces pays-là. En France, on est en train de rattraper un retard légitime, mais il va falloir que les pouvoirs publics revoient l'enseignement à la conduite. Je vais vous citer un exemple. On a deux jambes, il y a deux pédales avec les boîtes robotisées. En termes de sécurité routière, et ça je vous en donne ma parole, en ville, par exemple, quand vous avez le pied gauche devant la pédale de frein, puisque vous n'avez pas à retirer la pédale d'accélérateur pour aller freiner quand on freine du pied gauche, vous vous arrêtez instantanément. Ça éviterait des quantités d'accidents de
attendez, je ne suis pas sûr d'avoir compris. Vous voulez qu'il n'y ait qu'une pédale?
Mais non, il y a deux pédales, vous avez deux jambes. Donc il va falloir revoir l'enseignement à la conduite dans le temps pour que les gamins fassent comme au karting, freinent du pied gauche.
Ah, mais ça veut dire qu'il va falloir rééquiper toutes les voitures d'auto-école,
par exemple. Alors là, faut que vous soyez clair, parce que je comprenais rien. Donc vous voulez qu'on freine du pied gauche? C'est-à-dire que la pédale d'embrayage, vous voulez que le pied qui allait sur la pédale d'embrayage, elle aille sur le frein?
Exactement.
Mais pourquoi ? Pourquoi ? Je comprends pas pourquoi.
Mais parce que comme il y a.
Parce que je perds un petit temps de réaction.
Mais évidemment, ça évite. Non, c'est pas un petit temps de réaction.
On n'a plus
c'est
le pied à bouger.
De réaction.
Ah oui, parce que j'ai le pied sur l'accélérateur et oui.
Ouais. Le temps que vous voyez l'obstacle.
Donc faut réapprendre à conduire. Ça va être c'est coton. Donc là, ça c'est non, un non, truc qu'on n'avait pas imaginé.
C'est pour ça que je
la boîte automatique fait qu'on va réapprendre à conduire.
Mais on peut déjà passer son permis sur boîte automatique.
Et de nouveau, on reprend du plaisir quand on conduit en freinant du pied gauche.
Ah bah je le dis pour Ludovic van de Kerckhoff. Ludovic, ce soir, vous allez prendre votre voiture et freiner du pied gauche. Je vous dis, je sais pas si vous allez revenir demain.
En compétition, ça fait bien 20 ans qu'on ne freine que du pied gauche. Ça fait 20 ans.
Ah bah alors, écoutez, alors, et franchement, j'apprends des trucs dans cette émission. Je ne le savais pas. Vous le saviez sans doute, Christophe. Oui. On freine du pied gauche. Bah oui, mais je ne savais pas.
Merci beaucoup, Bernard Darniche, d'avoir été avec nous.
Moi, je me lève du pied gauche le matin. Mais bon. Merci, monsieur Darniche.
Pascal, je vous donnerai une leçon particulière.
Non, alors en voiture, je suis nul. Donc, je roule très lentement à cause de ça, parce que je ne vois pas grand-chose. Donc, je roule tranquillement.
C'est pas un problème de technique chez vous, c'est un problème de vision.
Exactement, exactement. Mais comme je le sais, et vous, vous pouvez rappeler combien vous avez de vision, Bernard Darniche ?
À l'époque, j'avais 20 dixièmes à chaque œil.
Non, mais Sébastien tu te rends compte.
Sébastien Loeb a 20 dixièmes à chaque œil. C'est notre particularité.
Voilà. Mais bien sûr, les pilotes, évidemment, vous avez 20 dixièmes. Donc, moi, je
donc on réagit deux fois plus vite que tout le monde.
Moi, je voyais à peine le Z et le U. Je vous remercie, Bernard Darniche. Merci, monsieur Bourou. Et merci, Amandine. C'était un plaisir. Mais on va vous retrouver, évidemment.
Pour le rappel des titres.
Bien sûr, pour le rappel des titres. À tout de suite. On est peut-être un peu en retard. Mais tout cela n'est pas grave. On est ensemble jusqu'à 14h30.
Au 32-10, RTL vous donne la parole.
RTL. Il est 13h01.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Praud.
J'espère que ce n'est pas l'heure du crime que nous faisons.
Il va falloir attendre.
Bien évidemment, cher Damien, avec nos amis les auditeurs. Élodie est déjà là, qui est prof en primaire. Bonjour Élodie. Vous avez 33 ans, c'est important de le dire, parce que...